ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ce bourreau. À Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente, et l'orca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents, tourne la violence. Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront.
Eh bien bonjour chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui avec Christophe Pélissère pour parler du Café Philo Pontois.
Eh bien bonjour, oui, je vous rappelle qu'exceptionnellement il a été reculé d'une semaine à cause du 11 novembre, et c'est le 18 novembre sur l'Utopie à 19h comme d'habitude au Centre Social et Culturel de Pont.
Quelle est l'origine de ce mot, l'Utopie ? Parce que pour moi, on entre quand même dans un monde imaginaire, un peu comme un monde parfait.
Eh bien oui, c'est à peu près ça, parce que Utopia, en fait, c'est un terme qui a été inventé par Thomas More en 1640. Et déjà, le préfixe « eu » en grec, ça veut dire à la fois... C'est privatif, lieu qui n'existe pas, hein, topia c'est le lieu, et en même temps, eu, qu'on trouve dans par exemple euthanasie, doux, idéal. Donc vous voyez, l'utopie renvoie étymologiquement à la fois à un lieu qui n'existerait pas, et également à un lieu qui sera en quelque sorte idéal. Et le fameux livre de Thomas More, qui était déjà un personnage historique, tout à fait hors du commun, eh bien, il imagine dans Utopia un monde idéal où il n'y aurait pas de monnaie, où le travail serait réparti de façon égalitaire. Et puis aussi, il entend répondre au problème, un problème politique qui se posait à son époque, qui était celui des enclosures. Parce qu'en effet, les aristocrates à cette époque avaient privé le peuple de faire paître les moutons là où ils devaient, là où ils pouvaient, et ils avaient entrepris de clore les terrains. Et partant de là, Thomas More imagine un endroit idéal où le bonheur, finalement, serait organisé par une rigoureuse égalité de droits. Et alors, bien sûr, la première des utopies philosophiques, c'était Platon avec République. Donc, vous voyez, c'est bien l'intuition que vous aviez au départ. Utopie, c'est à la fois le lieu qui n'existe pas et c'est en même temps le lieu idéal.
Donc l'utopie, ça peut être un modèle.
Un modèle, oui. Ça peut être aussi, autant qu'un modèle, une espèce de laboratoire du réel, beaucoup plus que la recette du bonheur. Les socialistes utopiques du XVIIIe siècle, comme les Saint-Simoniens, comme Fourier, comme Gaudin, comme tous ceux qui ont donné naissance au communisme, finalement, à des sociétés égalitaires, eh bien, ils se sont inspirés de Thomas More, hein, visant à faire du travail un plaisir, réduisant les journées de travail, par exemple, à 6 heures, et une richesse, et faisant de la richesse un flux qui excluait la monnaie. Donc, effectivement, comme vous l'aviez dit, dans l'utopie, eh bien, il y a aussi cette notion, peut-être, de paradigme, de modèle qui peut changer le réel.
Mais alors, cette utopie peut se transformer en véritable cauchemar. On peut même arriver à une certaine dictature au niveau des pensées, des comportements, puisqu'elle ne sera pas identique pour chacun.
Oui, alors à partir du moment où dans l'utopie, il y a le rêve, quelque chose qui n'existe pas encore, se pose le problème de la réalisation. Hein. Et c'est vrai que, il y a, à côté de ces ouvrages qui nous montrent des utopies, il y a des ouvrages qui nous montrent la dissociation radicale qui peut exister entre, et l'écart entre l'idéal et le réel. Par exemple, les romans de Ziamatti, Nous autres, ou Huxley, évidemment, c'est plus connu, Brave New World, Le meilleur des mondes, ou encore Zinoviev, L'avenir radieux. Bref, la création d'un homme nouveau, c'est un petit peu aussi de l'eugénisme, c'est supprimer ceux qui ne sont pas, évidemment, comme vous le pensez. C'est le fait, oui, ça peut être aussi imposer un modèle aux autres, finalement, parce que dans l'utopie, il y a toujours l'idée d'un lieu qui est clos. Hein. C'est pas un hasard si Thomas More, il met sa société sur une île. Hein. Il y a une insularité qui permet d'occulter l'idée de frontière, un lieu délimité, mais en même temps, faire un mur, c'est aussi s'enfermer à l'intérieur.
Oui, tout à voilà. fait, oui. Mais donc, l'utopie, elle a quand même un rôle à jouer, je suppose. Elle est porteuse d'espoir.
C'est vrai. C'est vrai que sans rêve collectif, que sont les utopies, on n'aurait pas beaucoup d'espoir sur Terre. Hein. Alors, vous savez qu'il y en a en ce moment, par exemple. Bon, il y en a déjà dans le domaine scientifique. L'idée qu'Einstein avait d'unifier les règles qui régissent l'infiniment petit, là, la théorie des quantas, avec la relativité de l'espace et du temps, c'est aussi une utopie, les scientifiques y travaillent. L'idée qu'ont, par exemple, en ce moment, les Californiens, ou les Bill Gates, ou de faire un homme avec une réalité augmentée, c'est-à-dire que la mort presque n'existe plus, ou que l'homme puisse avoir avec des banques d'organes, etc., tout ça, ça donne aussi à la médecine un espoir. Et même je pense que certains rêves d'hier peuvent être des réalités demain. Depuis justement Platon, mais il y a eu aussi Kant quand il voulait faire son projet de paix perpétuelle. Et ça a donné finalement, juste après la guerre, avec Wilson, la Société des Nations. Et maintenant, finalement, l'ONU. Mais vous voyez que la réalité, l'application avec les droits de veto, les superpuissances, casque bleu, etc., c'est pas toujours non plus idéal. Et ça entraîne beaucoup de complications. Et c'est comme Auroville, la ville en Inde qui avait été fondée par des philosophes, ça a cassé la figure complètement. Donc, vous voyez, il y a quand même la difficulté de passer de l'idéal, du rêve au réel. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, pour conclure, il y a beaucoup d'utopies aujourd'hui, par exemple le salaire universel, il y a eu la couverture médicale universelle qui s'est faite. Donc, vous voyez, il y a les utopies, je crois qu'il faut distinguer deux domaines. Les utopies sociales, qui sont parfois à prendre avec des pincettes, parce qu'elles peuvent évoluer sur le totalitarisme, hein, si elles excluent l'esprit critique, si elles transforment tous les gens sur un même modèle.
Oui, il n'y aurait plus de différence, du coup.
Voilà, plus de différence. Hein. Subordination de l'individu à la communauté, création d'un territoire fermé, rééducation de tous ceux qui sont déviants. Quoi. On en arrive à Huxley, où les gens sont définis par avance. C'est absolument affreux. Mais parallèlement à ça, il y a des domaines où l'utopie peut avoir un sens qui est plus positif, comme toutes les inventions. Par exemple, si de penser à Léonard de Vinci, hein, sur l'affiche, on voit bien cette aile volante, à la bionique aussi, c'est-à-dire l'étude et l'application de toutes les données sensorielles et des moyens de locomotion, etc., des animaux à la médecine. Il y a donc des domaines, peut-être, où l'utopie abordée avec un certain pragmatisme peut faire avancer, être vers le bonheur humain. Et je crois que si, évidemment, l'utopie est cousine de nos rêves et aussi de nos cauchemars, Mais l'anti-utopisme, c'est-à-dire le fait de supprimer chez les gens tout rêve, tout possible, tout espoir, hein, comme vous disiez à l'instant, eh bien, c'est encore pire. Donc entre réel et idéal, admiration et réflexion critique, eh bien, l'utopie, c'est quand même ce qui exprime le mieux notre désir d'avancer et puis d'être ensemble.
Eh bien, très bien. Merci, Christophe Pélissère.
Alors, je formule une utopie, c'est que vous soyez très nombreux au Parc au Refuge du Monde, au 44 de l'avenue Gambetta, pour assister à cette utopie. Et puis, je préciserai quand même que juste après, il y a une auberge espagnole où les gens qui sont pas obligés de parler, d'ailleurs, tous, hein, je veux dire, c'est... On a même le droit de dire des conneries, d'ailleurs, moi j'en dis aussi souvent, évidemment. Eh bien, ils sont conviés à porter quelque chose à manger, parce que la soirée se prolonge souvent. Je conclurai sur ces paroles. Je vous rappelle, vendredi 10 novembre, l'utopie à 19h.
Pourquoi toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi? Et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme, inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles, quoi, les bagues toujours, et la chair sous la roue, le massacre toujours, justifié d'idoles, au cadavre jeté, ce manteau de parole, le paillon pour la bouche, et pour la main le clou. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.